Salut à tous et bienvenue dans La Cartouche, le podcast Blueprint qui parle d'un ou plusieurs jeux vidéo et même d'une console. Oh, je suis Lou Le Cinéphobère et toi c'est Yann Reader.
Salut, ça va?
Comment ça va Yann? Bah écoute, très bien, et toi?
Je dois avouer que les 48 dernières heures ont été un petit peu marathon pour pouvoir essayer d'ingérer un maximum de l'expérience PlayStation 5 pour la régurgiter depuis notre bec jusqu'au bec des oisillons que sont nos auditrices et nos auditeurs évidemment.
On va nous accuser de condescendance, attention. Oui, la PlayStation 5, elle est sortie. Tu as prononcé le mot magique. Ça y est, tu as le Graal. Mm-hmm. Tu l'as, elle est chez toi. Elle est posée discrètement. Elle sort la tête depuis ton écran d'ordinateur. On la voit un petit peu en hauteur.
Ouais.
Alors, les auditeurs ne la voient pas, mais moi, j'ai pu voir la photo. Mm. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de cette console nouvelle génération qui va devenir du coup la génération actuelle. C'est la génération actuelle, c'est déjà plus la next gen. Mm. Écoute, peut-être pour commencer, j'ai envie de dire, quelles sont tes premières impressions quand tu as reçu du coup cette fabuleuse console?
Alors je ne l'ai pas reçue, je suis allé la chercher, ce qui dans le contexte Covid revêt un aspect encore plus particulier qu'un lancement de console habituel. J'ai fait la file à 2 mètres de distance avec un paquet de gens. La plupart étaient venus chercher une PlayStation 5 aussi, hein, il faut être honnête.
Évidemment.
Il y avait bien une personne, un couple, qui était venu chercher un aspirateur Dyson, mais c'était vraiment l'exception. Et donc je la récupère, déjà grosse boîte, j'arrive dans le magasin, tu passes directement en service après-vente parce que le reste du magasin est fermé et tu vois le mur de PS5 derrière les deux personnes qui étaient là pour gérer la boutique au-delà du vigile. Donc c'est allé assez vite, mais c'est une grosse boîte et surtout dans les mots immémoriaux d'un des visiteurs qui est allé avec je ne sais pas sa copine ou sa femme, repartant avec la PS5 dans les bras, c'est lourd. Et effectivement, Dieu sait que le package en lui-même déjà est lourd, et quand tu commences à l'unboxer, tu te rends compte que la PlayStation 5 fait toute la largeur de la boîte, à l'exception peut-être de quelques centimètres de Sagex sur les côtés, mais vraiment elle prend ses aises dans le packaging. On commence par retirer la DualSense, la nouvelle manette PlayStation, et puis on finit par tomber après quelques menus câbles sur la console en elle-même. Et d'ailleurs son socle, puisqu'on peut l'installer avec son socle horizontalement ou verticalement. Dans les deux cas, Sony recommande que vous utilisiez le socle quoi qu'il arrive, parce que ça aide au niveau de l'aération. Et on rappelle, hein, aussi bien du côté de la Xbox Series X, Xbox Series S ou PlayStation 5, toute cette génération là c'est un point très important, l'aération, pour faire en sorte que ces consoles soient les plus discrètes possibles, mais aussi qu'elles chauffent le moins possible. Et pour finir peut-être sur la taille, sur l'expérience vraiment physique que j'ai eue à la base en rencontrant cette console, tu l'as dit mon cher Lou, elle est posée derrière mes écrans à mon bureau, puisque j'ai désormais un écran 4K 28 pouces 60 images par seconde qui me fait face à ma droite au bureau et dans lequel je parle et depuis lequel d'ailleurs je vois le conducteur de cet épisode de La Cartouche. Et derrière lui, dépassant effectivement, j'ai la moitié de la PlayStation 5 qui me nargue. Celle-ci en fait est juché par rapport à ma table sur une petite étagère qui est directement collée à même le mur avec un seul rayon qui est à 20 cm au-dessus de ma table. Donc vous voyez un petit peu le setup. Ça fait vraiment building londonien, hein, la PlayStation 5, dans le décorum de mon bureau.
En termes de design, du coup, bon, tu l'as installé, tu l'as touché aussi. Au niveau du plastique, au niveau du revêtement, qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? On voit souvent les photos des petits détails, du coup, en forme de touche qui impressionnent beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi, de ton côté?
Qui sont à l'intérieur. Le côté Seto Kaiba, le côté Grand Dadais avec un col remontant. Il y a ce petit détail qui lui donne un petit peu, effectivement, ce genre d'air-là, où ce genre d'air de grand building. Justement, si on n'en voit que le haut, le fait qu'elle n'est pas symétrique n'est pas choquant, parce qu'elle n'est pas symétrique par le bas, au niveau du lecteur de disque, je le précisais tout de suite. D'ailleurs, j'ai la version avec le lecteur Blu-ray. Sur le plastique, sur le revêtement, franchement, elle n'est pas moche. Ceci dit, et ça a déjà été beaucoup dit hein, par nos confrères de la presse, le revêtement noir, donc le revêtement central, est glossy, il est brillant, et donc va assez facilement se prendre vos traces de doigts. Donc si vous devez toucher cette partie centrale de la console, touchez quelque part où vous ne la verrez pas. Par exemple, au-dessus ou derrière, pas devant. C'est ma petite recommandation. Sinon, non, le design est assez simple. Après, pour un point de vue purement pratique, un point qui n'est pas évident et qui a mené pas mal de confusion. Certaines personnes se sont dit « Mon Dieu, mon lecteur Blu-ray est cassé ». C'est surtout des gens qui avaient la console en verticale. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre les disques dans une position un peu étrange. La console donc, peut se tenir couchée ou debout, et quand elle se tient debout, il faut mettre les Blu-ray avec le logo, avec l'étiquette, dans la direction de la console, pas dans la direction extérieure quand on la tient verticalement. Du coup, on peut très vite faire l'erreur de la mettre à l'envers, tout simplement, le petit disque qu'on glisse dans la console.
D'accord, c'est assez inhabituel, effectivement, c'est un peu contre-intuitif. Alors ça y est, tu l'as allumé pour la première fois, avant même de lancer quoi que ce soit. L'interface, la fluidité, comment ça se passe, comment tu t'es senti accueilli dans le nouveau, la nouvelle ère PlayStation ?
Oh, je dirais même, avant même de la lancer à ce point-là et d'avoir accès au menu, t'as le processus d'installation. Et là, il y a eu deux détails qui ont été marquants pour moi, que j'ai trouvé vraiment intelligents. Le premier, c'est l'installation d'un jeu en background. Je parlais tout à l'heure de mettre un disque dans la console. Si vous avez un disque, par exemple PlayStation 4 ou PlayStation 5, la console, comme à chaque première insertion d'un disque, va procéder à l'installation du jeu sur la console. Et pour le coup, il vous propose de déjà installer alors qu'elle est en train, la console elle-même, de se faire ses premiers réglages. Donc vous gagnez un petit peu de temps grâce à ça, et c'est assez malin qu'ils encouragent les joueurs à glisser le disque du jeu qu'ils ont également acheté avec leur console au launch pour avoir à moins attendre une fois le premier paramétrage de la console terminé. Donc ça déjà, un bon petit détail, une bonne petite idée. Autre chose, on n'est pas obligé de faire l'update day one, l'update qui est sorti du système d'exploitation de la console. Autrement dit, si vous êtes quelque part où il y a une mauvaise ou alors pas du tout de connexion à Internet, vous pouvez déjà commencer à profiter de votre PlayStation 5. Pas évidemment dans toutes ses capacités, mais vous pouvez au moins commencer à jouer un petit peu avec, ce qui n'est pas le cas de notamment la Xbox Series X ou de la Xbox Series S. Enfin, il est possible de se connecter à son compte PlayStation avec un petit QR code qui est proposé à l'installation, ou alors avec un code à, je crois que c'est 6 ou 8 caractères qu'on peut rentrer dans l'application PlayStation, ou qu'on peut scanner avec l'application PlayStation de son smartphone ou de sa tablette. Et ça, toutes les personnes qui ont dû insérer une adresse email et un mot de passe pour se connecter à leur compte sur leur console savent que c'est hyper agréable de ne plus avoir à faire ça et juste de céder ce rôle-là à l'application PlayStation de son téléphone. Ça aide vraiment. Une fois qu'on est dedans, la rapidité des menus, paradoxalement, je trouve les menus pour l'instant un petit peu moins rapides que ceux de la PS4. Si on parle vraiment des menus en eux-mêmes, hein, la navigation dedans, à certains points, ça va peut-être un tout petit peu plus lentement, mais en ce qui concerne les temps de chargement, il n'y a pas photo. On prend par exemple le PlayStation Store, il n'est pas parfait, il lui manque des choses. Par exemple, il y a la wishlist, mais la wishlist n'est pas accessible depuis l'application PlayStation sur son téléphone ou depuis le site internet store.playstation.com. Il manque par exemple un onglet pour aller consulter les jeux en réduction actuellement, mais le PlayStation Store, du moment où vous mettez le curseur de l'interface sur le bouton PlayStation Store, en fait, vous n'avez pas à tellement ouvrir le PlayStation Store que simplement glisser vers le bas pour commencer déjà à naviguer dedans. Autrement dit, le PlayStation Store est l'interface et l'interface est le PlayStation Store. Et ça, c'est assez impressionnant pour le coup, surtout quand on revient de la PlayStation 4 ou quand on a aujourd'hui par exemple une Nintendo Switch où tout prend énormément de temps pour charger une nouvelle page, pour lancer le store, etc., etc.
En espérant que ça essaime un petit peu justement sur les futures consoles et qu'on garde cette fluidité de l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'interface qui t'ont interpellé? La bibliothèque de jeux peut-être, par exemple?
Alors sur la bibliothèque de jeux, oui, mais pas dans le bon sens. Ça m'a interpellé, mais ça m'a déçu, ça m'a beaucoup déçu. Le terme que j'utilise dans le conducteur, désolé pour toutes les personnes qui travaillent là-dessus chez Sony en termes d'interface utilisateur, c'est totalement bordélique, puisqu'en fait on se retrouve avec une énorme liste une fois qu'on active vraiment la bibliothèque de jeux complète, pas uniquement la petite barre qu'on a au lancement sur l'écran d'accueil, mais vraiment qu'on veut voir l'ensemble de ces jeux. Tout est jeté en pâture futurs, que ce soit vos jeux PS5, vos jeux PS4, mais aussi les jeux PlayStation Now, vous savez, les jeux en streaming, y compris, voilà, par exemple, le Sonic Adventure que vous avez testé une fois sur PlayStation Now, vous n'avez plus d'abonnement PlayStation Now, et ben ils y apparaissent quand même. Et il n'y a pas la possibilité de les cacher, il n'y a pas la possibilité de dire je ne les veux plus là. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de dire je me réabonnerai bien au PlayStation Now. Ce qui est un peu décevant.
Mais dis-moi, il manquerait pas un peu des dossiers ?
Alors, il n'est pas possible à ce stade de créer des dossiers, effectivement. Il manque
tu
des dossiers.
Tu vas pas faire une class action.
C'est ça, Nintendo et Sony, effectivement, maintenant. Des vieilles démos qu'on a téléchargées sur sa PS4, on les retrouve listées dans notre bibliothèque de jeux, sans la possibilité de les séparer des autres jeux PS4, sans la possibilité de les retirer de cette liste-là de la bibliothèque. Aucun filtre ne reste en mémoire. On peut filtrer ces jeux, par exemple, par console sur laquelle il est sorti, PS5, PS4. Les jeux PlayStation Now sont pour la plupart décrits comme PS3. On peut donc dire « Ah, ne me montre que mes jeux PS4 ou PS5 ou que les PS5 seuls, etc. etc. » Mais une fois qu'on quitte la bibliothèque de jeux et qu'on y revient, pouf, ça a déjà oublié. Donc c'est un petit peu nul en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment possibilité, même si c'est déjà pas top, d'au moins essayer d'arranger un petit peu l'expérience comme on le souhaite. On peut quand même naviguer entre l'ensemble des jeux qu'on possède et les jeux uniquement installés. Ça aide déjà à trier un petit peu, d'autant avec l'espace disque qu'on a sur le SSD, évidemment qu'on peut pas avoir un nombre infini de jeux, donc ça aide quand même à trier un petit peu. C'est, on va dire, une solution, mais c'est pas une solution définitive, et j'espère vraiment que les prochaines mises à jour de l'interface, du système d'exploitation de la console, vont ajouter de nouvelles fonctionnalités, vont permettre de trier les choses un petit peu différemment, parce qu'à ce stade, ce n'est pas parfait, loin s'en faut.
Alors l'expérience utilisateur, la fluidité, tout ça, ça passe aussi par la manette du coup. Donc que vaut la DualSense ?
La DualSense, c'est probablement le meilleur argument pour la PlayStation 5 comparativement aujourd'hui sur le marché, puisque la DualSense apporte plusieurs choses. Donc tout d'abord, elle tient bien en main, c'est bête à dire, mais quand on part de la DualShock 4 qui plaisait aux fanatiques Sony mais qui était vraiment plus dans le fan service de vous savez, la DualShock 4 c'est un peu comme la DualShock 3, c'est un peu comme la DualShock 2, la DualSense, et on voit ils ont changé le nom, hein, même si elle retient un form factor relativement équivalent, tient mieux dans la main, est un peu plus grande, espace beaucoup les boutons carrés, triangles, ronds, on croit, les sticks sont sympas, ils sont assez fermes, mais les deux grandes nouveautés évidemment de cette manette, c'est à la fois les retours haptiques, c'est-à-dire des vibrations encore plus détaillées que sur le HD Rumble de la Nintendo Switch, et d'ailleurs, enfin, je crois qu'on peut le décrire comme ça, c'est-à-dire que c'est pas révolutionnaire, ça reste des vibrations, mais c'est des vibrations assez subtiles. Si on prend l'exemple de Astrobot, dont je parlerai tout à l'heure plus en détail, dans Astrobot par exemple, tu peux sentir la différence entre marcher sur un rouleau recouvert de caoutchouc et le moment où, à la place du caoutchouc, il y a du métal. Non seulement le bruit est différent, il y a un petit bruit qui peut sortir de la manette, mais en plus, tu ressens avec les vibrations une vibration moins...
plus nette, plus ferme.
Plus nette, plus ferme dans le cas du métal et moins condensée dans le cadre du caoutchouc, par exemple. Donc ça, c'est assez
c'est fou,
malin.
Ça.
Alors, c'est assez malin, mais ça a ses limites. Par exemple, quand tu te jettes dans l'eau, t'as des vibrations assez larges, mais de là à dire que t'as l'impression d'avoir des mains dans l'eau, non. C'est pas, on n'en est pas là non plus.
Donc
c'est
pour ça. Y a pas de petit truc qui sort pour t'asperger au même moment.
Non, là, hélas. Mais ça va peut-être venir avec la PlayStation 7, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est une chouette évolution sur ce qui se faisait de mieux sur le marché jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le HD Rumble de la Nintendo Switch. Là, on est clairement une génération au-dessus, sans que ce soit révolutionnaire. Ce qui est, à mon avis, concrètement révolutionnaire, c'est tout bête. C'est les deux gâchettes. Vous les entendez là ? Elles fonctionnent normalement, mais les deux gâchettes et les gâchettes donc adaptatives, c'est-à-dire qui peuvent vous bloquer le doigt ou en tout cas vibrer, vous bloquer le doigt, vous faire ralentir, vous donner différentes sensations de pression au moment où vous appuyez sur la gâchette. Ça change vraiment la vie quand on joue à un jeu. Je vais reprendre l'exemple d'Astrobot. Vous allez récupérer un arc à un moment. Votre Astrobot va récupérer un arc et en bandant l'arc, bah, vous allez ressentir une pression. Ça va être beaucoup plus difficile de presser la détente. Autre exemple, vous allez incarner un robot singe à un moment dans Astrobot et vous allez vous accrocher à différentes prises. Alors déjà, le truc assez dingue, c'est que avec la tension qui se ressent, on vous fait ressentir la différence entre les prises qui sont solides et que vous pouvez accrocher comme un bourrin et les prises fragiles que vous ne pouvez accrocher qu'en y allant mollo. Et ça déjà, c'est hyper malin. Mais en plus, vous allez pouvoir vous accrocher à un petit robot qui va vous faire remonter sur une paroi et qui va vous amener en l'air ou qui va vous amener dans une certaine direction en se secouant un petit peu. Et vous allez sentir des vibrations et comme si la manette avait envie que vous lâchiez ces boutons de gâchette. Mais évidemment, vous ne voulez pas lâcher les boutons de gâchette parce que vous voulez continuer à monter, vous voulez continuer à rester accroché. Et c'est ce petit combat-là entre les doigts du joueur et la gâchette à retour de... avec ce petit feedback adaptatif qui à mon avis change complètement les choses parce que ça donne vraiment une sensation qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Moi je rêve d'un jour où tous les boutons, tous les sticks de cette manette auront une forme d'adaptivité. Si le stick par exemple pouvait être un peu plus pénible à pousser si je marchais dans le sable par exemple, ce genre de choses là je pense que ce serait hyper intéressant et hyper agréable et ça prouve ces gâchettes là prouvent vraiment leur utilité, je trouve. Elles sont pas appliquées avec, utilisées avec la même intelligence suivant les jeux, mais Astro Bot fait vraiment démonstration de cela. C'est aussi pour ça que le jeu est là, à la fois pour les joueurs pour qu'ils se rendent compte de la technologie qu'ils ont dans les mains, mais aussi pour les développeurs pour leur dire les amis, vous pouvez faire ça avec cette technologie là, c'est assez dingue. Et ça ouvre de beaux jours en termes d'interactivité et de motion gaming. On rappelle que dans la DualSense, comme dans la manette PlayStation 4, il y a également un accéléromètre, il y a également un gyroscope, et donc il peut détecter de quelle manière la manette est penchée, dans quelle direction elle se trouve, etc. Et mêler ces retours sur les gâchettes adaptatives avec le feedback haptique de vibration, avec le gyroscope qui permet par exemple de viser quand on tire à l'arc ou de pencher son personnage quand on est son petit singe qui veut monter aux prises contre une paroi, tout ça ajoute clairement une forme d'immersion et ça me fait réaliser que Sony en 2020 arrive à raviver intelligemment la flamme du motion gaming d'une manière que j'avais pas vraiment vu venir.
Ah mais tu m'étonnes. Bon bah t'as l'air hyper enthousiaste en tout cas vis-à-vis de cette manette. Il y a aucun point noir donc dessus.
Il y a un point noir je dirais. C'est les quatre boutons de face. Je le disais, carré, rond, triangle et carré. J'en ai probablement loupé un, c'était croix. Je me suis pas entendu parler. C'est pas grave. Ces quatre boutons là, ils sont plus séparés. Je pense que ça aide à les distinguer. Par contre, ils ont un petit défaut, c'est qu'ils sont très légèrement surélevés par rapport à la surface du reste de la manette. Bref, ils sont pas très grands. Ils sont pas très hauts ces boutons-là et quand on veut par exemple en peser deux en même temps avec son pouce ou voilà quand on veut appuyer sur plusieurs boutons en même temps, c'est un petit peu gênant. On n'est pas sûr qu'on a bien appuyé sur les deux boutons à la fois. J'ai pas l'impression que ce soit une limitation de mon premier modèle et que ce soit une erreur de construction. J'ai vraiment l'impression que la manette est faite comme ça. En tout cas, cette révision-là de la manette, et je trouve ça un petit peu dommage. C'est un peu plus difficile de frapper les touches en biais avec ses doigts et évidemment quand on veut atteindre d'autres boutons en même temps, ça peut devenir gênant à la longue.
Alors, avant de passer au jeu quand même, oui. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités du coup de cette PlayStation 5 que tu veux passer en revue et nous expliciter un petit peu ?
De manière générale, le SSD, mais je vais globalement développer un petit peu certains points qui m'ont frappé effectivement par rapport à cette console. Sur le SSD justement, c'est sa taille. On est sur 800 gigas de disponible, en vrai un peu moins, autour de 600, mais ça reste une petite upgrade par rapport à la PS4 de base qui était à 500 gigas, et c'est pas trop pour ajouter quelques jeux en plus, ou en tout cas pour avoir les mêmes jeux, plus quelques jeux PS5 dessus. On rappelle que si vous voulez étendre la mémoire de cette console à ce stade, vous pouvez par exemple brancher un autre SSD ou un disque dur, mais seulement les jeux PlayStation 4 pourront aller là-dessus, parce que les jeux PlayStation 5 ont vraiment besoin du SSD interne à la console pour pouvoir se jouer à pleine performance, et donc la console refuse que vous les stockiez ailleurs. Autre bonne nouvelle, surtout comparée par rapport à la première PlayStation 4, ça télécharge vite via le Wi-Fi intégré, la puce Wi-Fi intégrée à la console. C'était une catastrophe sur la PlayStation 4, ça allait vraiment extrêmement lentement. Là, je peux retélécharger mes dizaines, mes centaines de gigas dans le cas de certains jeux, relativement rapidement sur ma connexion VDSL2, donc juste le truc moins bien que la fibre, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait plaisir de voir que la console n'est pas limitée simplement par un bête composant à l'intérieur de ce côté-là. On l'avait vu lorsque l'interface de la console avait été révélée, le petit système de cartes qui apparaît quand on appuie sur le bouton PlayStation, le bouton Home. Lou, t'avais eu des doutes là-dessus en disant est-ce que ça va vraiment être utile, si je me souviens bien.
Ouais, Tout à fait.
Et ben figure-toi que je trouve ça franchement hyper malin, parce que tu peux vraiment t'en servir comme raccourci. Il y a deux usages que je trouve intéressants. Le premier, c'est ton jeu est fermé. Et tu veux le lancer à un certain point, tu veux reprendre depuis une boutique ou depuis un certain monde, etc. Tu peux le faire directement grâce à ça et te passer l'écran titre, les différents logos, etc. Et couplé avec le SSD hyper rapide de la PS5, tu peux te retrouver en moins de 10 secondes là où tu voulais être. Ce qui est assez zinzin, il faut bien l'admettre, par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui sur Xbox One, sur PS4 ou même sur Nintendo Switch. Le deuxième cas de figure, c'est tout bête. Mais quand vous jouez à un jeu qui aime principalement en ligne, on peut donner l'exemple de Fall Guys ou de Rocket League, la première carte qui va de toute façon vous être proposée, c'est « Voulez-vous inviter quelqu'un d'autre ?» Et c'est globalement l'action principale que tu veux faire, en fait, quand t'es dans ce genre de jeu-là et que t'appelles le bouton menu. Donc, c'est hyper malin parce que ça ramène à la surface un certain nombre d'actions que tu as vraiment envie de prendre. Je trouve, au contraire, par exemple, que le système qui te permet de regarder des vidéos de walkthrough directement faites par l'éditeur du jeu, ça, je trouve ça un peu plus gadget, parce que ça va pas forcément répondre à tes besoins et t'as pas moyen de taper vraiment du texte facilement pour avoir un moteur de recherche qui t'envoie vraiment là où tu veux être, et pour ça YouTube à mon avis va continuer d'être inégalé, mais sur le point de pouvoir simplement aller quelque part ou d'inviter les gens, ce système de cartes, il est hyper intelligent. J'ai testé quelque chose qui n'est pas directement lié à ma PS5, mais en fait si, parce qu'il y a quelques jours tous les possesseurs de PS4 ont vu apparaître une application sur leur console, qui est le Remote PS5, c'est-à-dire la possibilité de jouer à leur PS5 sur leur PS4, pour peu que les deux soient sur le même réseau. J'ai testé le truc, c'était très flou, parce que ça passe via le routeur, c'est pas une connexion pair à pair où la PS4 se connecte directement à la PS5, mais elles se connectent toutes au réseau Wi-Fi de la maison. Et vu que la PS4 est plus loin, assez éloignée du réseau Wi-Fi lui-même, etc., etc., mais pas trop éloignée de la PS5, c'était flou, et au bout de 2 minutes, ça s'est déconnecté. Donc,
dommage.
C'est pas extraordinaire. Ça peut plus ou moins marcher. Après, de toute façon, c'est relativement la même technologie que celle qui était utilisée, qui est toujours utilisée aujourd'hui sur smartphone avec l'application dédiée, ou par exemple sur PC, sur Mac ou avec même sa PS Vita. Donc, ça marche, mais ça reste à réserver aux gens qui ont une bonne couverture Wi-Fi chez eux, avec la console qui est relativement proche, les deux consoles qui sont relativement proches du point Wi-Fi, et puis surtout sur des jeux qui ne nécessitent pas une latence minimale, donc peut-être des RPG, peut-être des jeux de stratégie, mais pas nécessairement un jeu d'action ou un jeu de plateforme, où là par contre ça pourrait devenir beaucoup plus difficile.
Allez, on va parler maintenant justement des jeux, si tu veux bien.
Oui.
Alors, le premier, évidemment, celui qu'on se doit d'évoquer, c'est Astrobot, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Il est livré avec la console, il dure 2 à 3 heures.
C'est court.
Et c'est la bonne surprise. Oui, non, clairement. L'idée, c'est que c'est une démo technique plus. C'est à la fois une démo technique de la manette, mais c'est aussi une démo technique, si vous avez une télé 4K, par exemple, ou un écran 4K, mon Dieu, un jeu vidéo en 4K, en fait, c'est super beau. Et c'est vrai que c'est super beau. Bon, d'un point de vue gameplay, je vais vous le dire tout de suite, c'est un jeu de plateforme, on interagit, on récupère différents gadgets, mais surtout, on remplit des petits objectifs de manière linéaire dans un monde en 3D. Bref, ça m'a rappelé Super Mario Galaxy. Asobi Studio a fait un super taf sur le level design, sur l'ambiance. On entendra à la fin de l'épisode d'ailleurs un petit peu de musique qui vient de ce jeu-là. Toute la bande-son est catchy comme pas possible. Franchement, c'est extrêmement réussi. Ils avaient fait un Astrobot déjà pour le PSVR et j'en ai entendu énormément de bien, et maintenant j'espère qu'ils seront commandités pour faire un jeu complet sur PS5. C'est tout ce qu'ils méritent. Ils méritent pas d'être cantonnés à Asobi Studio à faire un jeu pour le PSVR, ils méritent pas d'être cantonnés à faire une démo technique, ils méritent vraiment de faire tout un jeu plein et entier. Les fans de PlayStation, ou en tout cas les gens qui sont un petit peu nostalgiques de l'histoire du jeu vidéo, vont vraiment aimer, parce qu'en fait les petits trésors qu'on peut trouver, les petites reliques qu'on peut trouver au fur et à mesure de cette aventure-là, ce sont des accessoires, des jeux, des consoles Sony. Et tu retraces à travers les quatre mondes toutes les époques de Sony avec du fanservice vraiment bien fichu, bien ficelé. Tu peux zoomer sur chaque bout de hardware, tu peux regarder les détails Lego derrière l'iToy par exemple, tu peux prendre de la PS2 et appuyer sur le pavé tactile de la manette pour lui faire tirer la langue, c'est-à-dire sortir le lecteur de disque. T'as vraiment de tout, t'as des références dingues si vous êtes des fanas par exemple du démarrage de la PS1, il y a une belle référence à ça là-dedans, c'est un joli hommage à tout ce qui a fait Sony en termes d'image générale. Et puis, il y a quand même des petites références également à des jeux tiers. Il y a des références, par exemple, à Tomb Raider. Il y a des références à Final Fantasy VII. Il y a des références à des jeux comme ça également qui sont placés de ci, de là. Donc, c'est aussi assez amusant de faire le tour de ça et de se dire, tiens, à quoi est-ce que ça fait référence, et de réaliser tout d'un coup, mais oui, évidemment, c'est à Lara Croft qu'on fait référence avec ce Dude Raider ou avec un Bot Raider. Je sais plus ce qu'ils avaient mis sur le petit écran. C'est bourré de détails, c'est charmant. Ouais. Et vraiment, ça fait réaliser le plein potentiel de la DualSense.
C'est un peu une déclaration d'amour à l'univers PlayStation, parce que même les titres que tu cites, ça fait partie de l'histoire de PlayStation. Donc c'est... Oui. C'est un beau clin d'œil en tout cas.
C'est du solo pur, il y a 4 mondes et 8 courses en contre-la-montre qui peuvent être débloquées, et avec les petites pièces que vous ramassez, vous pouvez également remplir un petit mur un peu façon... c'est pas le Miiverse, c'était sur 3DS, tu sais, quand t'avais les pièces que tu ramassais en marchant.
Le Street Pass.
Le Street Pass, exactement. Il y a un truc à la mini-jeu Street Pass où en fait tu ramasses des pièces dans ton aventure, comme quand tu ramasses des pièces dans Mario, et tu peux les dépenser pour débloquer des pièces de puzzle qui vont en gros remplir un énorme mur, une énorme fresque qui là aussi, elle aussi, raconte l'histoire de Sony PlayStation.
Alors, autre personnage qui fait partie de l'histoire de PlayStation et qui a une promotion en quelque sorte, puisqu'il a maintenant un jeu à son nom, contrairement à avant, c'est Sackboy, qui nous vient tout droit de Little Big Planet.
Oui.
Alors, c'était comment Sackboy ?
Alors lui, j'ai pas eu le temps de le finir, parce que c'est un jeu bien long. Donc, j'en suis encore au premier monde, je dois tout de suite l'avouer, j'ai vraiment poliché Astro Bot, je pouvais pas me retenir. Astro Bot est vraiment à ce point-là... excellent, enfin vraiment un très bon jeu de plateforme. Sackboy, pour le coup, Sackboy A Big Adventure, qui sort à la fois sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5, lui s'inspire d'un autre jeu Mario, et de manière assez éhontée d'ailleurs, de Super Mario 3D World, pour deux raisons. Premièrement, pour son côté un petit peu vu de loin, on se promène dans des environnements linéaires et on va terminer à la fin d'un niveau, on va attraper des objets secrets qui vont nous permettre de débloquer des niveaux suivants. Donc vraiment, c'est la même structure et c'est en gros la même inspiration de level design que Super Mario 3D World, même si c'est pas la même palette de mouvements. Encore que, puisque Sackboy, comme Mario dans 3D World, se déplace relativement lentement. Pourquoi ? Parce que comme dans Super Mario 3D World, on peut jouer jusqu'à 4. Et même l'interface pour sélectionner les autres personnages avec d'autres DualSense ressemble vraiment à celle que Nintendo avait mis en place pour Super Mario 3D World. Donc vraiment... c'est difficile de ne pas les mettre sur un pied d'égalité, ou en tout cas de ne pas les comparer. C'est amusant, c'est charmant, c'est magnifique. Il y a des effets visuels, il y a un tout petit peu de ray tracing, je crois, dans justement certains reflets et le calcul de certaines lumières. Maintenant, il n'est pas inoubliable, en tout cas pas à ce stade, ce jeu. La version française est un petit peu bâclée, certains dialogues sont redondants. Et j'ai trouvé ça dommage pour un jeu qui pour autant est un bon jeu de plateforme, et c'est Sumo Digital qui le développe. Sumo Digital avait déjà développé Little Big Planet 3, avait pris le relais de Media Molecule sur la licence Little Big Planet, donc c'est pas surprenant qu'on les voit à la barre pour ce Sackboy Big Adventure. Je trouve que déjà rien que sur ce que j'ai joué, ils en font déjà un meilleur jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont eu que l'aventure à gérer. Ils n'ont pas eu tout un système de création de niveaux et de partage de niveaux à gérer derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ils ont pu développer un jeu qui est plus intéressant, plus profond, qui ne se joue pas comme un Little Big Planet. C'est pour ça qu'il s'appelle Sackboy A Big Adventure. C'est clairement pour différencier, parce que bah, c'est beaucoup plus un jeu de plateforme de plein droit plutôt qu'un outil de création matiné de plateforme un peu maladroite. La physique est beaucoup moins flottante comme peut l'être un Little Big Planet, mais elle est lente comme peut l'être Mario 3D World. C'est là en fait la différence entre les deux jeux. Même sur la carte du monde, on se déplace dessus de la même manière que dans 3D World ou que dans Yoshi Woolly World, si on veut faire la comparaison de cette manière là aussi, ça peut être un moyen de le faire. Il y a vraiment des inspirations, mais ça fait plaisir de voir un jeu de plateforme au launch sur une console quand on était déjà un autre. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, et c'est pas tous les jours qu'on voit ça chez Sony. Donc le retour des jeux de plateforme sur PlayStation, moi je trouve ça assez positif, ça envoie un bon signal en tout cas.
Dire qu'il lui a fallu attendre la PlayStation 5 pour voir le retour des jeux de plateforme. Quand même. C'est formidable. WRC9.
Oui, un ami qui travaille pour l'éditeur Nakon a eu la bonté de m'envoyer un review code de WRC9. Alors, c'est un jeu de rallye, et les jeux de rallye, comme pas mal de jeux de simulation, ils en ont beaucoup pour faire la simulation, mais visuellement... C'est pas Drive Club. C'est joli sur un écran 4K, mais tu regardes les arbres, tu fais Donc le but, c'était vraiment de faire quelque chose de réaliste au niveau de la physique.
Chacun ses priorités.
Donc voilà, mais clairement ça tourne crème pour un jeu qui est disponible au launch de la PS5 dans ce contexte Covid et d'un éditeur tiers comme Nakon. Pour le coup, c'est assez amusant de voir aussi que le jeu s'adapte bien en fait à ce que c'est qu'une PlayStation 5. Ceci étant, je vais en profiter, je suis pas du tout expert des jeux de rallye, donc je vais me limiter là, hein, pour être très honnête, j'ai fait une ou deux courses, je ne suis pas très bon au jeu de rallye, mais ça tourne, ça marche, ok, cool. Un petit point quand même. Quand on a un code, quand on achète sur le PlayStation Store, quand on récupère un jeu de cette manière-là, un jeu qui est à la fois disponible sur PlayStation 4 et PlaStation 5, ce qui est le cas de WRC9, et que vraiment on prend la version où il y a les deux consoles qui sont comprises dans le package, ce qui n'est pas le cas de mon Sackboy, puisque mon Sackboy c'est un disque PS5, sur WRC9, quand j'ai entré le code et que j'ai téléchargé, c'est la version PS4 qui m'a téléchargé.
Ah.
Parce qu'en fait, il télécharge par défaut la version PS4 de chacun des jeux, y compris si c'est sur les deux supports. Ce qui est nul, parce que, hé, bah mec, oui, je joue sur une PS5. Ah.
Ça, tu mets pas trop en valeur ton nouveau produit, là, du coup, forcément.
Bah oui, et puis tu fais tourner un jeu PS4 sur une PS5, alors que t'as la version PS5 du jeu qui est littéralement la même fiche produit dans le PlayStation Store, quoi. C'est ça qui est incroyable et incompréhensible. Donc ce qu'il faut faire, c'est désinstaller la version PS4 et d'aller en gros checker les DLC du jeu pour télécharger la version PS5.
Ouf.
Ouais, voilà, c'est mal fichu. Il faut vraiment qu'ils revoient leur copie là-dessus, parce que pour l'année à venir, ça va être n'importe quoi, ça va vraiment pas être utile et compréhensible pour la plupart des gens qui vont pas faire attention. Simplement, il y a juste les gens qui vont, je pense qu'il y a un paquet de gens qui vont jouer à la version PS4, point. Et si la sauvegarde n'est pas transférable, c'est le cas dans certains des jeux, bah ça sera vraiment dommage, et il faudra recommencer le jeu à zéro si tu veux profiter de la version PS5. Ça c'est vraiment regrettable que ça fonctionne pas plus correctement. Un petit point avant d'attaquer les jeux PS4 et le fait de faire tourner les jeux PS4 sur une PS5. Quelque chose dont je voulais parler à un instant, on aurait pu le rattacher à Astrobot, on aurait pu le rattacher à l'interface, au système d'exploitation, etc. J'ai eu un crash en deux jours sur la console. Je jouais à Astrobot pendant qu'elle téléchargeait d'autres trucs dans un coin, et la console a redémarré.
Voilà, ah, super.
C'est pas la fin du monde. Mais la console a redémarré, d'autres personnes ont eu ce genre de problème là. Je m'attendais pas à avoir ce genre de problème là après le patch day one, qui est d'ailleurs pas vraiment un patch day one puisque c'est un patch day one, mais qui a suivi le lancement de la console aux États-Unis et au Japon le 12 novembre. Donc c'est un patch plus que day one, ou un patch day one européen, j'en sais rien. Mais même avec ça, pour le coup, visiblement c'est encore un petit peu instable sur les bords, même si franchement il n'y a que ce cas de figure-là que j'ai à déclarer. En ce qui concerne le bruit que la console peut faire, ça j'en ai pas parlé non plus, et j'en profite de parler de la console plus en général pour le placer aussi. J'arrive pas à savoir si ma console est plus bruyante que les autres. Clairement, elle n'est pas aussi bruyante qu'une PS4, même une PS4 neuve qui s'apparente à retrait les filtres à ventilo après plusieurs années d'utilisation, elle est vraiment discrète. Ceci étant, elle fait quand même un petit dès qu'on est par exemple dans un jeu, même un jeu PS4, même un jeu assez léger. Elle fait pas vraiment plus de bruit que ça. Si tu veux entendre plus de bruit, c'est à cause du lecteur Blu-ray quand il va vouloir chercher quelque chose sur le disque. Mais c'est la seule exception. Après, ce petit son de ventilo, il est un petit peu amplifié par la plaque en bois qui sous-tend ma console et le reste de ce qu'il y a sur cette plaque en bois, et ça crée une sorte de haut-parleur géant. Si je tiens avec mes mains cette PlayStation 5 pendant qu'elle tourne, on va dire, à bon régime et qui du coup elle ventile, si je la tiens et que je la soulève juste un tout petit peu, pas forcément pour la décoller mais juste pour isoler un petit peu le bruit, eh ben je l'entends quasiment plus. Donc ça me fait dire que sur un meuble télé qui lui a les 4 pieds sur terre, ou en tout cas sur le plancher, on l'entendra beaucoup moins que dans le cas spécifique de ma planche en bois derrière mon bureau, tout simplement. Voilà.
Alors, concernant du coup les jeux PS4, déjà, est-ce que graphiquement, tu as vu une différence quand tu es passé de la PS4 à la PS5, du coup ?
Oui, pas forcément positive.
Ah, oh.
Mais ça, c'est pas de la faute de la console en elle-même, principe, à mon avis.
Le téléviseur.
C'est la faute de l'écran que j'utilise, parce que j'utilise un écran 4K, et mettre une image 1080p sur un écran 4K, c'est pas très beau. Ça va quand c'est littéralement ce que la console a le mieux, peut faire de mieux. On est déjà habitué à ce que la Switch soit moche, et notamment l'écran d'accueil de la Switch qui n'est pas en 1080p mais qui est en 720p, on rappelle. Ce qui est encore plus moche sur un écran 4K. Quand on prend un petit peu de recul sur la Switch, honnêtement, c'est pas un souci sur cet écran 4K. J'ai testé. Pareil, sur la Xbox One, j'ai testé. Maintenant, sur une PS5 qui fait tourner un jeu PS4, dans le cas par exemple de Persona 5, je vais le finir sur ma PS4 qui du coup se trouve sur ma télé 1080p, parce que c'est assez laid de le faire tourner. Je trouve que à la fois le framerate à 30 plus le 1080p sur cet écran 4K 60, pour une raison que j'avais pas complètement à expliquer, ça a l'air à la fois un petit peu haché et un petit peu moche, un petit peu flou, un petit peu cracra. Quand bien même les couleurs sur cet écran sont beaucoup plus vivantes que sur mon écran de télé. Ceci mis à part, pour les jeux qui ont eu une update PS4 Pro, c'est déjà hyper hyper chouette. Certains jeux PS4 auront même une upgrade vers la PS5. Ce sera le cas notamment de Cyberpunk qui va sortir d'abord sur PS4 et qui aura droit à une upgrade PS5. C'est le cas de Fortnite qui l'a eu, ce sera le cas de Rocket League qui l'aura bientôt, etc., etc. Mais même déjà les versions PS4 Pro, j'ai fait tourner Trackmania Turbo qui désormais tourne du coup en 60 images par seconde, 4K, c'est magnifique. Borderlands Collection, j'ai fait tourner Borderlands 2, c'est tellement beau, ça rend tellement bien. The Witness, dont le framerate est doublé, Rocket League dont je parlais tout à l'heure, le patch PS4 Pro rend déjà le truc très sympa. Je l'ai dit donc sur Persona 5, c'est pas top. Sur Fall Guys, je vois un peu flou. Y a un effet de dissipation lumineuse, de bloom, vraiment de flou assez étrange. Faut que je recompare avec la version PC du jeu, je ne sais pas si c'est normal, parce que au demeurant, certes le jeu tourne en 1080p, mais il tourne enfin en 60 images par seconde, ce qu'il n'était pas capable de faire sur ma PS4 d'origine. Donc voilà, franchement, dès que le jeu a une augmentation PS4 Pro, vous allez avoir du meilleur. Après, toutes les améliorations PS4 Pro sont pas de fait pareil. Sur Fall Guys, par exemple, c'est toujours de la 1080p. Et dans le cas de Trackmania Turbo, par contre, c'est ou de Borderlands, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et on passe directement à de la 2K, voire de la 4K. Et rien que de la 2K, déjà, ça fait toute la différence sur un écran comme celui-là. Et franchement, c'est beau. C'est hyper, hyper beau. Et j'ai hâte de voir plus de jeux sur cette résolution-là maintenant. Ce que je m'attendais pas à dire, honnêtement, mais cet écran et cette console ont créé une sorte de nouveau standard pour mes yeux. Et maintenant, revoir un jeu 1080p, je sais pas, j'ai l'impression de revoir un timbre poste. Et un timbre poste un peu... un peu primitif.
Ça y est, c'est devenu comme quand on joue à la Super Nintendo, quand
c'est
t'avais l'HD, quoi.
C'est exactement ça.
Ouais.
Ou quand tu mets des nouvelles lunettes après plusieurs années d'être sur une vieille prescription.
Alors globalement, bah, tes sentiments de ce lancement, est-ce que t'es excité, enthousiaste, tout ça, t'as vraiment l'impression d'avoir mis un pied justement dans cette nouvelle génération? Est-ce que tu sens est-ce qu'il y a l'effet waouh en fait?
Oui, un tiers à cause du fait que j'ai également dépensé du pognon sur un écran 4K pour les jeux qui sont compatibles. Et deux tiers pour la DualSense et ses gâchettes magiques. Vraiment, j'utilise pas ce terme-là souvent, mais c'est une mystification. Je sais pas si tu l'as vu je l'ai balancé en story sur Instagram et sur Messenger hier soir. Je jouais à Astrobot et
oui.
Dans Astrobot, tu peux tirer une petite mitrailleuse à bulles. À bulle ou à balle de gacha, enfin voilà, à petite balle en mousse, on va dire. Et l'idée, c'est que si tu presses la gâchette pour lancer ça, bah la gâchette tremble comme si elle était une mitraillette qui tremblait dans tes mains, comme si elle était une gâchette de mitraillette qui tremblait dans tes mains. Ah, et c'est
techniquement
malin.
J'étais bluffé, je me dis, mais comment ils ont réussi à faire ce truc aussi précis sur un petit machin comme ça et tout, enfin,
c'est bluffant. Après, tu vois, il y a Astrobot qui l'utilise à plein potentiel, et d'ailleurs à certains moments, à mon avis, qui est un petit peu trop too much sur certaines vibrations ou sur certains retours des gâchettes adaptatives. Et dans d'autres cas, notamment celui de Sackboy ou celui de WRC, où je trouve qu'ils pourraient y aller un petit peu plus fort. Il pourrait faire ressortir le truc un peu plus violemment. Dans le cas de WRC 9, par exemple, l'idée, c'est que quand tu passes les vitesses, mettons qu'elles soient automatiques, ta voiture, mais tu peux aussi la mettre en manuel, évidemment, quand tu passes les vitesses, tu sens un petit ch'touk dans ta gâchette quand la vitesse est automatiquement passée. Pareil, si tu freines, t'as un ressenti un peu comme si tu pressais une pédale de frein et qu'elle te ferait une certaine résistance à partir d'un certain point, dépendamment du type de route sur laquelle tu es, etc., etc., et de quel genre de manœuvre t'es en train de faire au niveau de ton véhicule. Donc, vraiment, c'est la DualSense qui plonge dans cette nouvelle génération là et tout le reste, c'est des points techniques qui sont importants. Ça rend la console plus rapide, ça rend la console plus puissante, ça lui permet de s'afficher sur des résolutions plus grandes, c'est vrai, mais ça change pas tant que ça la vie si par exemple vous avez eu une PS4 Pro ou si vous avez eu une Xbox One X. C'est sympa, mais à ce stade, c'est des jeux relativement équivalents. Dans 3 ou 4 ans, on aura des jeux qui vont clairement Bien aller sûr. Plus loin que ça, notamment d'un point de vue visuel. Mais aujourd'hui, c'est une évolution sur ce qu'on a connu sur Xbox One X et sur PS4 Pro. Donc vraiment, la manette, le mode d'interaction, d'une manière qui n'est pas gimmick. Deux derniers petits trucs, rapidement. Ouais. Comme sur la manette PS4, il y a un touchpad, il ne sert toujours à rien, mais il se confond maintenant dans le design de la manette, et il est beaucoup plus discret.
C'est mieux, du coup.
Et voilà. Donc, mais à mon avis, je parie qu'il est là surtout pour permettre la compatibilité avec les jeux PS4 qui en ont besoin.
Il le traîne comme un boulet, du coup.
À mon avis, c'est qu'une impression, je sais pas, honnêtement, enfin. Oui, Astrobot s'en sert, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Sackboy Big Adventure, je crois même pas qu'il s'en sert, en tout cas pas jusque là où j'ai joué. WRC 9 non plus, à part s'en servir comme un bouton supplémentaire. Donc, haussement d'épaule, ça sert pas à grand chose à ce stade. Le deuxième truc, et je l'ai testé sur la chaîne Twitch de Blueprint, j'ai diffusé en direct avec la console, j'ai streamé en 1080p 60 images par seconde depuis ma console. Encore une fois, bonne puce wifi à l'intérieur de la console, j'ai pas eu un saut d'image, c'était stable et c'était fluide. 1080p 60 images par seconde, c'est vraiment chouette de pouvoir streamer comme ça sur Twitch. Ceci étant, c'est pas intuitif parce qu'il faut les désactiver le DHCP, donc la protection anti-piratage dans les câbles HDMI dans la console pour qu'on puisse simplement voir le jeu qu'on stream, ce qui est quand même quelque chose, tu vois, pour pouvoir que les gens puissent simplement avoir l'image du jeu. Il faut aller désactiver un truc qui est un peu planqué dans les options et dont la console ne parle jamais, donc c'est un peu gênant. À côté de ça, on peut utiliser le micro de la manette, y aller en pur haut-parleur et micro de la manette pour streamer, et ça marche pas mal. C'est pas le micro le plus propre du monde, mais ça ressemble un petit peu à un micro intégré de laptop, et ça fait le job. Ils essayent plus ou moins de réduire le bruit, par exemple des sticks, parce que c'est évidemment sur la même manette, des sticks et des boutons quand t'appuies dessus, ça s'entend un petit peu, mais c'est pas hyper violent. Et puis, dernier point, l'intégration du chat est super bien fichue. L'intégration du chat Twitch est super bien fichue parce qu'en fait, tu as des petites bulles avec les différents messages qui apparaissent en bas à droite, mais ça n'apparaît que pour toi. Ça n'apparaît pas sur le stream. Parce que du coup, les gens peuvent regarder évidemment le chat sur le stream. Ce qui n'était pas le cas sur PS4, où si tu voulais avoir le chat qui s'affichait, tu avais toute une barre d'écran qui était prise à droite de ton écran, non seulement ça, mais en plus, c'était également diffusé sur le stream, ce qui était bien bête. Ça affiche tout, quoi. Voilà, donc là, c'est bien fichu. Il peut également t'avertir si tu le souhaites quand il y a un certain nombre de spectateurs. Il dit ah, 4 spectateurs, ah, 10 spectateurs, ah, 50 spectateurs. C'est assez bien fichu. Donc voilà. Et aussi bien ça que la capture vidéo, le screenshot, c'est plus facile. Quand on partage un screenshot ou une capture vidéo, d'ailleurs, il ne met plus de lien vers la page du store du jeu. Ce qui là aussi est mieux pour pouvoir partager facilement un extrait de gameplay sur, mettons, Twitter. 100%. Faites gaffe, ceci dit, parce que si vous avez le micro activé et que vous avez le réglage activé également, non seulement c'est l'audio du jeu qui va être mis en capture, mais ça va aussi être l'audio enregistré avec le micro. Donc j'ai tweeté puis supprimé un extrait de moi qui faisait un truc incroyable dans Astrobot avec France Info en fond, parce que j'écoutais France Info en parallèle.
Heureusement que c'était France Info, parce qu'à mon avis il va y avoir des petites surprises, je pense, avec cette fonctionnalité.
Ça peut,
très honnêtement.
Ça peut, donc il va falloir faire attention. Ceci dit, il y a un bouton muet sur la manette, et l'activer affiche une petite barre jaune qui dit oh, mon Dieu, ton micro est muet. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Désolé, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais il y avait beaucoup à dire sur cette PlayStation 5. Il n'y a pas beaucoup de jeux aujourd'hui, hein, faut être très honnête, de jeux exclusifs qui sont passionnants. On n'a pas parlé de Spider-Man Miles Morales simplement parce que je ne l'ai pas. Mais à l'exception de celui-là, à l'exception de Sackboy et Astrobot, il n'y a pas 15 000 trucs passionnants aujourd'hui sur PS5. Vous pouvez attendre. Ça vaut peut-être même le coup d'attendre parce que, comme dans toutes les premières fournées de consoles, il y en aura qui devront aller en retour producteur pour se faire réparer. Ça arrive forcément sur les premiers exemplaires de ce genre de produit. Donc si vous pouvez attendre un petit peu, d'autant qu'il pourrait y avoir des réductions de prix à partir de, je sais pas, à partir de mars-avril, s'il y a des bundles ou si même il y a des distributeurs qui commencent à les faire à moins cher. Vous pouvez prendre votre mal aux patience, je pense, et terminer les quelques jeux PS4 ou les quelques jeux Xbox One qui vous restent. C'est tout à fait possible. C'est chouette, la manette est cool, c'est une belle promesse pour l'avenir, mais est-ce que c'est indispensable au vu des jeux qui sont là aujourd'hui, et sachant également que des jeux comme Assassin's Creed Valhalla sortent sur ou Cyberpunk sortent sur PS4 et Xbox One, il n'y a pas de raison de rusher, je dirais.
Bon, bah vous l'avez compris, en tout cas, pour avoir un sentiment de cette next-gen, le mieux est encore d'essayer la DualSense, qui est apparemment le point qui est le plus ravi. Yann, pour un point de vue technique, justement, mon cher Yann, je pense que tu as une bonne adresse où faire glisser son oreille.
Exactement. Vu qu'on parle de la PS5, bah ça me semble être le bon moment pour te parler, Lou, et pour vous parler à vous toutes et tous d'un autre podcast, d'un autre épisode de podcast, puisqu'il y a quelques jours, j'ai invité Jia, qui était à l'époque dans Console Plus et sur Game One, Nico de Canard PC Hardware, ainsi que Franck, notre ami Franck de Tech2, pour discuter pendant tout un épisode de la technique et des deux nouvelles consoles de cette fin d'année, donc la PS5, dont on a parlé encore aujourd'hui, et l'Xbox Series X. Et S, on va vraiment à fond dans les aspects techniques. Jia, Franck, Nico sont beaucoup plus calés niveau hardware, niveau matériel que moi. Et grâce à mes questions ainsi que tes questions, Lou, parce que tu as aussi fait un featuring dans l'épisode, on en apprend plus sur comment fonctionnent ces consoles, laquelle est plus puissante que l'autre. Si on a une qui est plus puissante que l'autre, écoutez le podcast pour avoir la réponse. C'est assez subtil, c'est pas si simple que ça. Pourquoi sont-elles si grandes, si grosses, si lourdes, ces consoles de nouvelle génération? Eh ben, on en parle dans cet épisode 49 du Player Club, que vous pouvez retrouver en cherchant le Player Club dans votre application de podcast ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode de La Cartouche que vous écoutez là, maintenant.
Et nous passons maintenant...
Oui, vas-y,
tu veux le faire?
Excuse-moi, non, tu présentes, c'est vrai.
La force de l'habitude. On passe au suivi et au courrier. On a une petite question sur Twitter, à laquelle je vais pouvoir répondre, je pense, très très vite. Et je me doute un petit peu de ta réponse. C'est Chichi qui nous dit « Astro Boy » pour Astrobot, évidemment. Pourrait-il devenir une licence plus forte sans être cantonné à un accessoire ou à une forme de démo?
Je l'espère, et le fait que dans les crédits, les développeurs disent à bientôt dans notre prochaine aventure, blablabla, ça reste très léger, évidemment, comme promesse, mais j'espère que ça entr'ouvre vers une grande aventure non VR sur PS5 d'Astrobot, effectivement. Donc,
mais,
est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, mais je l'espère. Oui.
Est-ce que le chara-design, est-ce que la direction artistique se prête quand même à quelque chose de... je trouve le jeu très...
générique.
Très générique, tu sais, c'est ma fameuse expression habituelle, on dirait toujours un clone chinois, en fait, à chaque fois, c'est...
Écoute, oui, mais le voir animé lui donne une certaine personnalité, on s'y attache un petit peu à Astrobot. Alors, c'est clair, c'est Todd, hein, c'est Todd, ou c'est un Pikmin, c'est, ou c'est...
Todd, c'est pas le plus charismatique du Royaume Champignon.
Ou c'est les Schtroumpfs. Non, là, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que, ils sont assez interchangeables, oui... En gros, c'est les schtroumpfs, c'est-à-dire que tu as le schtroumpf heureux, le schtroumpf je sais pas quoi, et l'idée c'est que tu les distingues par rapport à soit l'expression qu'ils ont sur leur visage, soit les vêtements qu'ils portent. Voilà, c'est à peu près ça qui te permet de faire la différence entre l'un et l'autre, même chose avec les Toads dans l'univers de Mario. Donc, potentiellement il y a cette limitation là, mais honnêtement ils en sont déjà à leur deuxième jeu Astro Bot. La licence maintenant existe, je pense pas que ce soit particulièrement gênant, et honnêtement, avec les bons retours qu'Astro Bot a, non seulement dans ce podcast, qui influence beaucoup de la vision de l'industrie du jeu vidéo à travers le public francophone, mais aussi chez nos consoeurs et confrères, aussi bien en francophonie qu'ailleurs, Astro Bot et d'ailleurs son prédécesseur sur le PSVR ont eu de très bonnes critiques, et de fait, la licence gagne une certaine notoriété, et vraiment un satisfait-site en termes de qualité de jeu. Donc, je pense pas qu'il y ait à s'inquiéter de ce côté-là. Certes, le charisme n'est pas aussi puissant qu'un héros comme Link ou qu'un personnage comme Ren de Persona 5. Mais enfin, ça reste jouable, je pense.
Alors attention, on va faire un exercice extrêmement radiophonique. Une question de Guillaume. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Oui. La question est, va-t-elle rentrer dans ça?
Voilà.
avec une photo. Alors, on précise, on parle de la PlayStation 5. Et la photo, c'est évidemment un meuble télé, bien sûr. Moi, à brûle pour point, je regarde le meuble télé qui est ma foi très joli, mais il m'a l'air très mince quand même.
Oui, alors déjà dans un premier temps, on va le décrire rapidement pour les gens qui n'ont pas l'image, puisque c'est un podcast audio, c'est un meuble télé sur lequel des choses sont posées, mais surtout dans lequel des choses sont posées, puisqu'il y a des petits panneaux coulissables qui permettent de refermer complètement le meuble, et dans lequel je crois qu'on voit une PS4 Pro en bas, ou en tout cas ça ressemble fortement. Non, c'est une pile de bouquins, bah écoutez, on aurait dit une PS4 Pro. Ça me paraît un petit peu serré en termes d'épaisseur, parce que couché, je ne sais pas si la PS5 va rentrer à l'intérieur, pour être tout à fait honnête. Et même si elle le pouvait, je ne pense pas que ce serait une bonne idée justement pour la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur, même pas fermée, mais juste avec le meuble qui est comme ça bloqué sur 5 décifaces. Honnêtement, j'oserais pas faire ça justement pour éviter la surchauffe et pour éviter une usure accélérée de la console qui pourrait lui provoquer par exemple des shutdowns pour cause de trop forte chaleur, etc., etc. Donc, est-ce qu'elle peut rentrer dans ça physiquement? Peut-être, prends les dimensions, regarde, mais est-ce que tu devrais le faire? Absolument pas.
Donc voilà, donc soyez très prudent à l'endroit où vous posez votre PlayStation 5. Eh bien, la cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. L'épisode est fini, mais l'after show vous attend juste après le générique. On va parler de Crusader Kings 3, notamment de Reigns Beyond et du patch de Mario 3D All-Stars. Vous pouvez nous écrire avec vos questions, vos réactions et vos idées de jeux, des jeux nouveaux, des jeux rétro, même des tops, pourquoi pas, par email. C'est lacartouche@blueprint.pm et sur Twitter, c'est @lacartouche BP. Toujours sur Twitter, vous pouvez nous suivre. Moi-même, c'est Alex le serveur et Yann, c'est Inks HD.
C'est
car
vrai.
Tu es en HD maintenant. À quand Inks 4K?
Je devrais téléphoner à monsieur Jack Dorsey de Twitter pour voir si c'est simplement légal.
Allez, si vous sentez l'âme généreuse, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast en cherchant La Cartouche. À très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao. Elle est tellement catchy, l'ascension du SSD. Et il y a des chansons quasiment dans tous les niveaux d'Astro Bot. Ça fait partie du charme du jeu. D'ailleurs, j'ai remarqué autre chose.
Ça sent tellement bon les années 80, j'adore.
Ah non, mais c'est génial. Il y a du fun service vers la fin du jeu. Il y a plein de gens qui ont suivi la marque PlayStation depuis le début, qui vont, je ne vais pas dire verser une larme de nostalgie, mais en tout cas, apprécier la qualité de la référence. Je n'en dirais pas plus. Un petit fun fact sur Sackboy Rapidos. Je jouais juste avant d'aller manger. Et parce qu'on enregistre ces épisodes le soir. Et le niveau que j'ai commencé, c'est un niveau dans lequel tu as Uptown Funk de comment il s'appelle, de Bruno Mars qui joue. Et vraiment dans la droite lignée des Little Big Planet avec des deals musicaux complètement pétés, tu as des deals musicaux complètement pétés dans Sackboy A Big Adventure, ce qui est assez ce qui est cohérent pour la licence, mais ce qui est impressionnant d'entendre et de voir d'ailleurs tout le décor, les ennemis se trémousser sur du Bruno Mars. C'est quelque chose.
Autant on est habitué dans un jeu comme GTA, c'est vrai, ce genre de choses. Là, c'est vrai que c'est un peu plus inhabituel. C'est marrant.
Je tiens à dire que ce dossier, ça a été un véritable rodéo. Évidemment, je suis la seule personne qui a joué dans l'équipe à cette console. Donc, je peux pas vraiment rebondir sur toi pour dire, hey, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la DualSense? Parce que, t'as pas pu l'essayer. Donc, ça donne un aspect un petit peu marathon. Et puis, on est un petit peu zigzagué entre différents points que j'avais préparés. Mais je pense qu'on est arrivé finalement à quelque chose d'assez clair.
Bah, je crois que c'est assez carré, j'espère, c'est moi qui ai mené la conversation. Mais donc
honnêtement, acheter une console au launch, c'est pas une bonne idée parce que c'est
je regrette tellement d'avoir acheté Xbox One au launch. Non mais enfin,
c'est là qu'elle est la plus chère. C'est là où il y a le moins de jeux. C'est là où il y a le plus de chances d'avoir un défaut machine. Je vois pas, enfin, à part quand on est dans mon cas de figure et que moi ça me permet d'écrire des piges, ça me permet de faire des articles, ça me permet de faire des podcasts, etc. Ça me permet de couvrir parce que c'est mon taf de le couvrir. Pour les autres, non, franchement, je vois pas le débat.
Mais tu sais, c'est très bien qu'on le fait par amour. Quand j'ai acheté ma Xbox One, c'était entièrement par amour parce que j'avais tellement kiffé.
Mais je pense que c'est un
réflexe. 360.
Ouais.
Que voilà, donc que tu. Voilà, la Switch, j'ai pas regretté par contre, tu vois, parce que
moi non
clairement,
plus.
Ça a été. Il y a eu un wow effect pour la Switch, ça c'est clair que. Et pourtant, Dieu sait que je l'avais vraiment descendu en amont jusqu'au moment où j'ai pu l'essayer, jusqu'au dernier moment. J'étais sceptique, mais ouais, non, je...
Et je peux dire du bien de la DualSense encore un instant. Un autre truc que je trouve, un des types de trucs sur les gâchettes adaptives que je trouve vraiment, vraiment bien fait, c'est non pas le cas de figure où simplement plus tu appuies, plus il y a de résistance, mais plus tu appuies, plus il y a de la résistance, jusqu'à un certain stade où il n'y a plus de résistance du tout parce que quelque chose s'est cassé, par exemple. Mais quelque chose s'est cassé dans le jeu. Et ça te transcrit ça. Et en fait, ils peuvent vraiment moduler ça en fonction d'où tu es, on va dire entre guillemets, en pourcentage de pression sur la gâchette, de manière complètement dingue. Parce que, en fait, c'était ma question que j'avais quand on parlait de la DualSense. Et oui, effectivement, elle peut faire tout ce genre de choses. C'est oui, mais est-ce qu'elle peut passer de grosse pression à rien après qu'on continue de pousser? Et la réponse est oui. Donc, c'est. Voilà,
ça donne vraiment envie de tester. Ça m'a envie de tester d'autant plus que je trouve que sur la Switch, c'est peut-être la partie la plus décevante, c'est les gâchettes. Quand tu repenses, par exemple, ça fait une très bonne transition. Ouais. Et tu vois où je veux en venir. Mario Stars, évidemment, oui. Mario Sunshine, les gâchettes analogiques du GameCube qui permettaient de gérer la pression. Tu le sens aussi quand tu joues à Luigi's Mansion 3, de façon. Quand tu compares avec le Luigi's Mansion original, qui permet de gérer l'aspiration, t'aspires plus ou moins fort. Ça, c'était assez cool. Donc, dans Sunshine, ça servait à gérer le jet d'eau. Et ça, on pouvait pas le faire. Mais il y a eu un patch pour Mario 3D All-Star, justement. Pour corriger ça. Donc,
alors, pas que, mais oui, effectivement, il y a un patch de Mario 3D All-Stars qui améliore les performances, notamment de Mario Sunshine, notamment quand on ouvre le menu avec le bouton Z. On n'a pas le. C'est drôle parce que, en plus, c'était un bug habituel d'une émulation, genre sur Dolphin, que le truc soit lent. Donc, ça montrait à quel point, finalement, les petits génies de Nerd, le studio français qui appartient à Nintendo, ont les mêmes problèmes que les développeurs d'émulateurs. Sur le marché gris.
Puis j'ai dit ça corrige le problème, mais j'ai envie de me corriger moi-même tout de suite. C'est pas que ça corrige le problème, c'est juste que maintenant tu peux brancher une manette GameCube pour jouer à Sunshine.
C'est ça.
Donc ça contourne le problème en fait finalement.
C'est ça. Mais au-delà de ça, effectivement Mario Sunshine en général tourne un petit peu mieux. Il y avait des petits glitches visuels au-delà qui étaient présents ici et là, notamment des cubes qui étaient à référencer pendant le développement. Qui ont été retirés, donc non, honnêtement, ils ont fait un joli petit travail pour enlever les petits détails un petit peu problématiques. Je continue de trouver qu'il n'est pas aussi fluide qu'il pourrait l'être ou qu'il l'est sur GameCube, mais c'est un petit peu mieux, voilà, exactement. Toi, tu voulais parler de Crusader Kings 3.
Oui, écoute, c'est à force d'en entendre parler. Hein.
Ouais.
J'ai lu l'article de Corentin Lamy du coup sur Pixel. Ça m'a vraiment donné envie. Ça fait un moment que je lance du côté de la grande stratégie et j'hésitais entre Europa Universalis 4, Crusader Kings 3, tout ça, les deux machins. Je me dis lequel je prends. Europa, il est un peu plus civilisation là, c'est la vraie grande stratégie avec une composante de gestion extrêmement importante, alors que Crusader Kings 3 est plus original, il a un côté, on m'a présenté un petit peu, on m'a dit c'est un petit peu un mélange entre Civilization et les Sims. Et un petit côté RPG en plus. Et c'est pas franchement loin de ce que c'est assez original comme titre. Finalement, j'ai craqué pour Crusader Kings 3 pour la simple et bonne raison que j'adore avoir toutes les extensions. Et quand j'ai vu le panier d'Europa Universalis 4 à 240 euros, Je me suis dit, je vais peut-être commencer avec, avec CK3, ce sera peut-être un peu plus sympa. Et j'y ai joué, et c'est d'une densité, d'une profondeur, je me suis dit, bon, je maîtrise des jeux comme Civilization, donc ça devrait aller, mais il faut vraiment apprendre. Et c'est chaud sur, parce qu'en fait, donc pour présenter, donc tu es un roi au 9e ou au 11e siècle, un roi, tu diriges en tout cas une terre en Europe, un endroit où tu veux, et tu fais, et en fait, ton but, il n'est pas forcément de conquérir l'Europe, hein. Tu gères ta dynastie. L'objectif est de gérer ta dynastie. Donc tu peux t'étendre, mais tu peux aussi te marier, faire des enfants, tuer des gens ou être amoureux. Enfin, tu joues en fait comme tu veux. Alors c'est vrai que je pense que tous les joueurs, et particulièrement les gens qui jouent à Civilization, tout ça, ont forcément un biais de « je veux conquérir le monde ». Forcément, c'est un des premiers trucs que je veux faire. Et c'est une des frustrations que j'ai souvent, c'est que tu ne peux pas déclarer la guerre gratuitement, contrairement à Civilization. Là, il te faut un casus belli pour pouvoir déclarer une guerre. Et moi, je me dis, mais mes voisins, moi j'ai un casus belli, je veux agrandir mon territoire. C'est ça mon casus belli, en fait. J'ai juste « cassez-vous ». Et des fois, t'as un casus belli, tu dis « ah, je vais déclarer la guerre ». T'attends, tu recrutes des soldats, et puis les soldats sont là, et le casus belli a disparu. Donc c'est embêtant. Donc il y a plein de petits points du jeu que je maîtrise pas, parce que autant l'interface est assez assez épurée, on va dire, mais dès que tu commences à ouvrir les menus, c'est très dense. Il y a beaucoup 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 de choses à retenir, beaucoup de choses à gérer, et du coup, ce qui frustre, c'est que t'as vraiment l'impression d'être tout le temps en surface. Mais rien que de jouer en surface, c'est déjà extrêmement drôle. Donc j'ai commencé avec le roi qu'on nous impose pour le didacticiel. Et puis au tout début du jeu, il y a un cheval. Enfin, il fait un entraînement à cheval. Et le cheval est particulièrement capricieux. Et t'as une chance sur trois. Donc soit tu descends de ton cheval et tu tapes un petit peu la honte, donc tu perds en prestige. Soit t'as une chance sur trois de réussir à calmer le cheval. Bon, j'étais joueur, je me disais, je vais tenter de le calmer. Et du coup, bah, tu récupères le cheval, tu décides de mettre dans une écurie, ça donne des points parmi tes statistiques, tout ça. Et toute la vie de mon roi était basée sur son cheval, quasiment. En fait, il y a plein d'histoires avec son cheval et tout, et c'était extrêmement drôle. Pendant ce temps, j'essayais un petit peu de me faire apprécier par mon évêque qui ne m'aimait pas trop pour X raisons. Je voulais trouver un médecin, mais je tombais que sur des femmes cruelles, perfides, manipulatrices, tout ça. Voilà. Après, t'essaies de jouer, je veux marier mon fils aîné, et sans me rendre compte, je le fais épouser une lesbienne. Du coup, il ne peut pas avoir d'enfant, donc c'est un petit peu compliqué. Donc enfin voilà, il y a plein de petits trucs rigolos, en fait, comme ça, que tu peux suivre dans l'aventure. Et en fait, une des choses qui m'a donné envie de jouer au jeu, c'est que donc il y a Nagla, donc de JV.com, qui en fait a créé un schisme avec l'Église et a fondé sa propre religion qui est nudiste. Et du coup, il convertit ses prisonniers, les terres qu'il prend au nudisme. Tu le vois faire des discussions avec le pape nu, alors avec une petite feuille de vigne, évidemment, hein, tout ça. Mais du coup, enfin, tu dis, ce jeu est complètement fou, donc tu peux créer tes propres religions, ce genre de choses. Enfin, t'as une très très grande liberté. En fait, je trouve qu'il y a une telle profondeur que il faut vraiment jouer plein de fois, je pense, pour maîtriser ce genre de jeu. Et même si le didacticiel essaie de te mettre un petit peu sur les rails, t'as l'impression qu'en fait tu fais du vélo à roulettes, clairement. Et j'imagine que les gens qui sont rompus à ce genre de jeu, bah eux ils font du cross à côté. Et c'est frustrant parce que tu vois en fait l'immensité des possibilités que t'offre le jeu, mais tu sais pas forcément en profiter. Donc alors il paraît qu'il y a un gros effort qui a été fait pour la prise en main, et que celui-ci est un peu plus accessible, mais voilà. En tout cas, je me suis beaucoup amusé du peu que j'ai compris, alors que j'ai pas fait grand chose. Donc je me dis, quand tu joues avec ce jeu avec ce plein potentiel, ça va vraiment être formidable. Donc voilà, si ça vous intéresse, je stream mes parties comme d'habitude, elles sont dispo sur ma chaîne YouTube, et si surtout, s'il y a des connaisseurs de ce genre, c'est surtout ça dont j'ai besoin, c'est qu'on m'explique, qu'on me guide, en fait. C'est ce qui me manque.
Un coach de cruiser de King.
Exactement, ouais. Donc donner des petits conseils par-ci par-là, ça peut être sympa. J'ai quelqu'un qui m'a proposé d'ailleurs de faire une partie avec moi, et ça peut être cool. Je pense que ce genre de jeu, c'est bien de l'apprendre comme ça. Et la communauté des joueurs C'est un jeu paradoxe. La communauté des joueurs est assez présente pour ça, pour coacher, pour expliquer tout ça. Donc, enfin voilà, si c'est un genre qui vous intéresse, le côté historique qui est en plus vraiment bien représenté parce que c'est pointu, hein, c'est les territoires de Jure, c'est les comtés, les duchés, les baronnies, etc. Donc, faut vraiment apprendre des choses historiques. C'est fondé vraiment sur l'histoire et tu reconnais des passages de l'histoire, des personnages historiques aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment passionnant et d'une richesse incroyable. Donc, si vous êtes passionné d'histoire, jetez un coup d'œil parce que c'est pas franchement difficile vu que, bah, comme je vous le disais, il y a pas de but, hein. Vous pouvez très bien vivoter dans votre côté. C'est pas gênant, vous perdrez pas tant que vous aurez toujours un héritier, finalement, hein. C'est l'objectif, simplement, c'est de créer une famille.
C'est les Sims Stephen Bern Edition.
Exactement. Donc faire des mariages pour créer des alliances, etc. Et donc du coup, faut pas avoir peur, faut pas l'envisager sous l'angle de la performance. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant aussi rien que pour ça. Donc voilà, c'est Crusader Kings 3.
Ça me fait rire parce que le jeu dont je voulais parler, qui est Reigns Beyond, que je n'ai pas joué, donc je vais vraiment le citer en passant.
Très royal.
Et un peu dans le délire, dans le même délire, mais complètement différemment en termes de gameplay. C'est-à-dire que dans les deux cas, tu gères un royaume, sauf qu'évidemment, dans la saga des Reigns, tu le gères avec une interface à la Tinder et tu fais des choix pour maximiser ou minimiser, ou en tout cas pour gérer quatre différentes jauges que sont ta population, ta fortune, la religion et ton armée, voilà.
Simple à prendre en main, mais pas facile pour autant. Moi, j'ai bien galéré.
C'est pas facile de deviner dans certains cas quel va être l'effet, etc. Les donjons, et puis il y a plein de petits gimmicks différents dans les différentes versions. Là, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une version de l'espace qui est sortie un peu de nulle part, qui s'appelle Reigns Beyond. Et qui est disponible sur Apple Arcade. Et comme tous les jeux Apple Arcade, du jour au lendemain, c'est annoncé, ça sort, et personne ne s'y était préparé. Donc, du coup, voilà, si vous êtes abonné à Apple Arcade, ça peut vous intéresser. Je ne le suis plus pour le moment, mais ça va peut-être me motiver à remettre quelques pièces dans la machine. En tout cas, honnêtement, j'ai suffisamment de jeux en ce moment pour pas m'y lancer maintenant, mais il est sur mon radar et tu vois, il redevient une raison, une première raison de peut-être remettre un petit peu d'argent dans Apple Arcade. Il y a une dernière chose que je voulais faire aujourd'hui.
Oui, tu voulais parler un petit peu de mon boulot, enfin de mon groupe, de mon entreprise en tout cas.
Alors non, je veux te parler peut-être de l'équivalent suisse de ton entreprise, parce que je veux te parler de 20 minutes du 20 minutes suisse.
Ben, 20 minutes, ça fait partie du groupe West France.
Je ne savais pas en France que ça faisait partie du groupe West France. Turns out. Mais 20 minutes suisse, sauf erreur, c'est pas le même. Enfin, si, je sais que c'est pas le même groupe puisque c'est ETX Group en Suisse.
D'accord.
Et le 20 minutes en Suisse romande en tout cas, a une page Game Zone qui apparaît, je crois, une fois par semaine. Et dans cette page Game Zone du numéro du 12 novembre 2020, on a un entrefil. Alors déjà l'article sur les Series X est assez gratiné et sur le grand titre Series, il lui manque le deuxième S. Bon, c'est la vie. Non, moi je voulais te lire l'entrefilet sur Assassin's Creed Valhalla, qui est censé être une critique puisque je vois 5 étoiles en bas. Donc c'est une critique de jeu, non signée d'ailleurs. Tout support, Ubisoft solo, bon adieu la Nintendo Switch, HP Guy 18 ans, tout à fait, c'est factuel, et donc 5 sur 5, ok. Quelle est la critique? Alors, le titre de la critique c'est « Tous en route pour le Valhalla !» Point d'exclamation. Jeu de rôle, ok. Assassin's Creed Valhalla, jeu où on incarne un viking en quête de gloire au Moyen-Âge, profite pleinement de la puissance de la Xbox Series X, non pardon, série X, il manque le deuxième S de nouveau, pour afficher des graphismes fluides en 4K. Là on est déjà à la moitié de la critique. L'enrobage est magnifique et le cœur du titre vaut l'os. Les combats d'une violence inouïe, comprenant des démembrements, s'intègrent parfaitement dans une aventure riche en activités diverses et variées, un des jeux de l'année 2020, fin de la critique.
Ah, c'est dur, en si peu de signes, le papier, c'est pas évident. Hein.
Oui, alors je suis d'accord avec toi. Mais
la phrase sur les démembrements, c'est un peu...
Voilà,
c'est...
le choix de la phrase sur les démembrements, quand l'espace t'est compté comme ça, et pareil, tu vois, le faire en écho sur le papier sur la série X, je suis pas sûr non plus, enfin bon.
C'est un peu malheureux.
Curieux.
Mais ça me fait penser, justement, sur Twitter, j'ai pas mal passé de trucs, enfin, il y a des quêtes... C'est vrai que j'ai du mal à piger l'équilibre sur l'humour, notamment sur le jeu, avec l'humour pipi caca, on va le dire très clairement, ou qui côtoie la grande aventure. Alors
tu parles de quoi? Tu parles de Crusader King?
Non, je parle de Assassin's Creed.
Ah, ok.
J'ai vraiment du mal à piger en fait ce double équilibre. Parce que, enfin, je sais pas, je trouve que ça fait perdre de la grandeur en fait. Alors, je comprends qu'ils veulent un petit peu amener de la légèreté et tout. Il y a un seul truc que j'ai trouvé assez drôle. C'était la fameuse quête sur où tu vois un enfant en fait qui parle de son père. Oui, mon père est un grand. Enfin, c'est une maison qui pue en fait et tu sais pas pourquoi. Et oui, mon père est un grand archer, machin. Il est très sale. On l'appelle dégueulasse.
Ok.
Ça m'a fait rire.
Ça alors, passe.
Après, il dit, oui, est-ce que vous pouvez aider à sortir les caisses de chiasse et tout? Enfin, là, c'était un petit peu too much, tu vois. Je me dis, mais, enfin, tu vois, enfin, et à côté, t'essaies d'écrire une grande aventure, une grande fresque et tout. Je me dis, est-ce que ça aurait pas mieux valu, je sais pas, d'aller peut-être plutôt voir du côté des mondes Tipiton ou un truc comme un truc un peu plus...
Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux auteurs de Saga MP3 et pas les plus connus, tu vois, mais vraiment les fictions audio qui sont venues bien après ou en réponse à ou inspirées par le Donjon de Nalbok, inspirées par les aventures du survivant, inspirées par Reflet d'Acide, etc. Où effectivement, l'humour vraiment premier degré tapisse le truc et rend ça plus ou moins insupportable ou en tout cas assez gênant à écouter. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le même genre d'humour qui ressort de là et c'est le même côté un petit peu... vraiment un petit peu adolescent qui semble en émaller. Alors c'est pas gênant pour une saga MP3, c'est un peu gênant pour un jeu AAA comme Assassin's Creed, je veux dire.
Ouais, mais je dis pas, enfin j'ai pas de problème avec ce genre d'humour, hein, tu vois, c'est pas la question. Je trouve que c'était pas forcément le genre de titre où tu l'attends en fait finalement. Ouais. Enfin c'est un peu dommage, enfin parce que il est très très beau. Je sais que je le ferai pas, hein, mais la façon dont c'est présenté, le travail qui est fait derrière, le travail historique comme ils le font à chaque fois sur les épisodes et surtout sur les derniers. Je sais pas, t'en attends. De la grandeur du rêve et je pense que ça te fait sortir forcément du jeu en fait finalement. Donc c'est j'ai trouvé ça un peu étrange. Donc voilà,